un podcast France Culture.
Considéré comme le calife des conquêtes arabes au premier temps de l'islam, Omar, l'un des compagnons de Mahomet, est l'homme qui a lancé les troupes musulmanes à l'assaut de la Perse, de la Syrie, de l'Égypte au début du 7e siècle. Des conquêtes qui s'accompagnent d'une domination économique des territoires occupés. Les pillages, puis les taxes imposées aux non-musulmans permettent au jeune État islamique né dans le désert d'Arabie de se consolider. Pour évoquer l'économie arabe à l'époque d'Omar, nous avons invité Gabriel Martinez-Gros, historien, professeur émérite d'histoire médiévale à l'Université Paris-Nanterre, auteur de l'Empire islamique 7e siècle, 11e siècle, paru chez Passé Composé, et d'une histoire de l'Empire islamique, des conquêtes arabes à l'apogée et au rayonnement intellectuel de l'Empire islamique jusqu'à son déclin, aux éditions Frémaux et Associés. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milliot, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Genepin.
اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطهر ولا تقلل لي منها فأنسى فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني غير مضيع ولا مفر.
Seigneur, ne m'accorde ni trop ni peu des richesses de ce monde, de sorte que je ne puisse ni outrepasser mes limites, ni oublier mes responsabilités. Je suis avancé en âge, j'ai perdu une partie de ma force alors que mes sujets ont augmenté. Aide-moi à m'acquitter de mes responsabilités, n'abandonnant personne. Bonjour, Gabriel Martinez-Gros.
Bonjour.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. En 2012, les chaînes Qatar TV et Middle East Broadcasting diffusaient une série intitulée Omar al-Farouk, consacrée au calife Omar en 31 épisodes d'une quarantaine de minutes. On vient d'entendre le tout début du premier épisode. Consacrer donc ainsi une série au deuxième calife de l'islam, c'est le signe de l'intérêt dans le monde musulman pour cette figure de guerrier ?
Absolument, oui. Omar est par excellence donc le calife, l'empereur, on pourrait presque dire, le successeur du prophète, qui a mené les premières conquêtes de l'islam et surtout des conquêtes victorieuses, fulgurantes. Et c'est aussi celui qui a imposé l'ordre de succession qui écartait Ali, le cousin, le neveu et le gendre du prophète, ce qui explique évidemment qu'il soit particulièrement détesté des chiites, mais par la même occasion et pour les mêmes raisons, particulièrement révéré du monde sunnite dont il est l'un des créateurs.
Mahomet et Omar sont nés en Arabie à la fin du 6e siècle. À quoi ressemble alors ce territoire, Gabriel Martinez-Gros ?
Un territoire probablement, bien qu'on n'ait pas beaucoup de renseignements sur ce territoire à vrai dire encore, probablement encore assez divisé, même s'il est probablement aussi sur le point de s'unifier, ou même si les divisions sont sur le point de s'atténuer, sous la poussée de la ville principale, ou des deux villes principales, qui sont toutes les deux situées sur la côte occidentale de l'Arabie, et qui vont jouer un rôle décisif dans la naissance et dans l'expansion de l'islam, c'est-à-dire la Mecque et Médine. Et pour l'essentiel, ces deux villes, Médine est en partie une ville d'agriculture, c'est une palmeraie. La Mecque ignore totalement l'agriculture et donc les ressources de la ville sont essentiellement des ressources commerciales. Ce sont des routes qui mènent depuis le Yémen dans le sud de la péninsule arabique, qui lui est un pays producteur, jusque à la Syrie et jusqu'à l'Irak, c'est-à-dire jusqu'aux deux grands empires auxquels l'islam va d'ailleurs s'en prendre et au détriment desquels il va conquérir son propre territoire, c'est-à-dire l'Empire romain tout simplement, hein, en Égypte et en Syrie, que nous appelons l'Empire byzantin au 6e ou au 7e siècle, et puis l'Empire perse en Irak et en Iran.
Et il y a des discussions entre historiens sur l'importance de la Mecque lorsque Omar voit le jour en 584 dans cette ville.
Oui. De très intenses discussions, et encore aujourd'hui, encore dans le commentaire que représente le Coran des historiens, il y a des chiffres, des données de population absolument contradictoires qui circulent. À vrai dire, je me situerais plutôt dans la moyenne. Il est probable que la Mecque est tout de même le centre urbain, dans la mesure où on peut parler d'un centre urbain le plus important d'Arabie, avec la ville voisine et alliée de Taif, qui est un peu dans la montagne. D'une taille légèrement supérieure à celle de Médine, mais ce sont des tailles assez réduites au total, hein, bien sûr, 5 000, 10 000 habitants, pas davantage, c'est-à-dire très peu au regard des grandes métropoles de l'Orient romain ou de l'Orient perse, hein, Alexandrie, Constantinople, qui atteignent déjà plusieurs centaines de milliers d'habitants, comme d'ailleurs Bagdad plus tard.
Et oui, je vous l'avais dit, les deux grandes puissances de l'époque, ce sont d'une part l'Empire byzantin et de l'autre l'Empire perse. Ce sont des entités politiques très vastes qui comportent en effet des villes productives qui sont assujetties à une fiscalité des empires auxquels elles sont rattachées. Gabriel Martinez-Gros.
Voilà, alors c'est peut-être le point décisif à souligner. Vous l'avez d'ailleurs, je crois, déjà un peu souligné hier avec Pierre Briand et Francis Johannes. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une conquête, il faut d'abord qu'il y ait des conquis, et non pas des conquérants. Les conquérants viennent plus tard. Ce qu'il faut d'abord, ce sont des populations, en effet, soumises et désarmées par une entreprise impériale antérieure, par un empire qui a déjà assuré une ébauche de soumission, de pacification. Et c'est cette pacification qui assure à la fois les ressources économiques, qui attire l'envahisseur, qui attire le conquérant, et qui assure aussi le succès de la conquête, parce que l'immense majorité des populations sont désarmées. Elles ne se défendent pas, et elles ont été prévenues de se défendre, en quelque sorte, parce que ce que les empires antérieurs ont imposé, c'est précisément la taxation, c'est précisément l'impôt, et ce qu'ils ont craint en désarmant les populations, ce qu'ils craignent évidemment, c'est la révolte contre l'impôt, toujours. Hein. Et donc, ce désarmement des populations crée une forme de faiblesse, de vulnérabilité, qui facilite au total le travail des conquérants. C'est l'Empire perse qui facilite le travail d'Alexandre le Grand, et c'est les deux empires, romains et perses, qui vont faciliter le travail des Arabes, dès lors que ces Arabes sont réunis. C'est cela le grand exploit du prophète et de ses compagnons, c'est-à-dire Abou Bakr et Omar, c'était d'unir les Arabes.
Ces territoires perses et byzantins sont riches, mais déclinants au début du 7e siècle.
C'est vrai. C'est vrai, d'une manière générale d'ailleurs, hein, il semble que dans l'Empire chinois, on observe la même baisse de population que dans le monde méditerranéen, tout simplement à cause des grandes pandémies qui se sont installées, la variole probablement à partir du 2e siècle et qui ne va plus quitter jusqu'à Jenner, jusqu'à la fin du 18e siècle, qui ne quittera plus notre humanité méditerranéenne et occidentale ou islamique. Et puis la peste, au 6e siècle, qui arrive pour la première fois dans le monde méditerranéen, sous le règne de Justinien, et on peut compter que l'un avec l'autre, ces deux grandes pandémies font diminuer de 20 à 25% la population du monde méditerranéen et de ces deux grands empires.
Tu connais les résultats du jour, Maya ?
Pas encore, mais cette année, les dieux sont en or.
Et quand on confond les dieux et les bénéfices, on s'en trouve d'autant plus comblé, c'est bien ça.
Et d'autant qu'il n'y aura plus de dieux qui s'abriteront dans la Kaaba.
La caravane qui vient de Syrie.
Ils ont fait un long trajet, il doit être assoiffé.
Place 5 hommes de plus autour du puits Nord.
Et combien de moutons va-t-on tuer en leur honneur ? 70 ?
Disons plutôt 100. La Mecque est justement célèbre pour son hospitalité. Et 10 agneaux pour leur chef.
Omar est un conquérant, hein, on va le voir, mais c'est d'abord un marchand à la Mecque, Gabriel Martinez-Gros.
Absolument. La Mecque est donc, pour l'essentiel, semble-t-il, une cité de transit, mais qui a réussi, parce que le commerce ne s'entend pas, pour les époques dont nous parlons, sans une forme d'intimidation militaire, qui a réussi à obtenir la traversée des territoires, des tribus, pour porter précisément depuis le Yémen jusqu'à la Mecque et puis de la Mecque jusqu'à la Syrie les productions qui sont essentiellement l'encens, la myrrhe, les productions africaines qui sont déjà présentes à partir du Yémen jusque dans l'Empire romain. Donc
puis les armes et les esclaves.
Exactement. Les esclaves en particulier. La Mecque est déjà une forme de puissance politique en même temps que de puissance commerciale, puisque il lui faut négocier ou imposer des traités de passage avec la plupart des tribus arabes, en tout cas de l'ouest de l'Arabie. L'est est beaucoup moins bien contrôlé avant les conquêtes musulmanes, et c'est le premier État musulman qui va précisément, pour la première fois, donner aux cités de l'ouest, c'est-à-dire à Médine et à la Mecque, le contrôle de ces tribus de l'est. À l'est, il n'y a pratiquement pas, là où se trouvent aujourd'hui les champs de pétrole, il n'y a pratiquement pas de ville, hein, il n'y a pratiquement pas d'agglomération, et probablement des populations très clairsemées, mais très belliqueuses.
Omar, le futur calife, a 14 ans de moins que Mahomet. Peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots, Gabriel Martinez-Gros, sur le prophète. Il aurait reçu la parole de Dieu lors de la nuit du destin en 610. Il a alors 40 ans.
Oui, alors 40 ans, oui. Alors, toute cette histoire est naturellement reconstitué à partir de sources beaucoup plus tardives, dont les premières datent de la fin du 7e siècle, c'est-à-dire 40 ou 50 ans après la mort du prophète. Il est assez clair que la vie du prophète a été constituée ou reconstituée à partir de l'exemple ou du contre-exemple du Christ. Le Christ est un Dieu enfant, et donc Mohammed sera un prophète âgé. Et donc, il commence à 40 ans, ce qui est considérable, hein, beaucoup, la plupart, même probablement, des hommes sont morts à cet âge-là. Hein. Et donc, c'est une volonté très évidente de détacher, ce sera aussi le cas au moment de sa mort, de détacher le prophète de l'exemple du Christ. Le prophète n'est pas le Christ, il n'est pas un Dieu vivant, il n'est pas un enfant Dieu, il n'y a pas de cérémonie de Noël, même si on va l'inventer plusieurs siècles plus tard, mais au départ, hein, il s'agit de marquer très nettement la différence.
Un film retrace la vie du prophète, mais sans jamais le représenter. Il s'agit du message de Mustapha Akkad, qui est sorti en 1976.
Ta mère a été morte d'inquiétude toute la nuit.
Oh, je regrette sincèrement.
Où est-ce que tu étais?
Je redoute le pire pour toi. Tu écoutes des paroles qui finiront par te nuire.
Je ne fais qu'écouter Mahomet, personne d'autre.
Mahomet est généreux, c'est vrai, il partage, il donne. Jamais il ne croisera quelqu'un sans lui sourire. Mais il répand des idées très dangereuses.
Des idées dangereuses? Nul ne doit mourir de faim. Le riche ne doit pas frustrer le pauvre. Le fort ne doit pas opprimer le faible. Ce sont des idées dangereuses. La fille ne devrait pas être contrainte au mariage, mais avoir la possibilité de choisir ou de refuser. Et cette nuit, il vient de dire... N'enterrez plus vivants les bébés de sexe féminin. J'ai promis d'aller chez Mahomet ce matin. Nous prions là-bas.
Oui. C'est un homme bon.
Oui. Oui, tu peux y aller.
C'est un homme bon, dit l'un des personnages. Et pourtant, Mahomet est très mal perçu lors de ses premiers prêches dans la ville de la Mecque, Gabriel Martinez-Gros.
Oui, parce que il annonce que la religion traditionnelle des Arabes n'est pas la bonne, en quelque sorte. Et à l'un des Arabes qui a un de ses adversaires, bien sûr, qui a le mauvais goût de lui demander, mais alors si la religion de nos pères n'est pas la bonne, que sont devenus nos pères? Ils sont au paradis dont tu parles ou dans l'enfer dont tu parles? Et Mohammed répond, mais je suis désolé, mais ils sont en enfer. Et c'est dans une société aussi patriarcale et aussi attachée au culte du père, en quelque sorte, que la société arabe de ce temps, c'est une réplique qui lui fait évidemment beaucoup d'ennemis.
Omar fait partie d'ailleurs de ses ennemis.
Dans un premier temps, il fait partie de ses ennemis, comme beaucoup de ceux qui vont participer aux conquêtes, en particulier lié au plus célèbre et au plus brillant des généraux de ses conquêtes arabes, Khaled ibn al-Walid, le conquérant de la Syrie, qui a été un opposant presque jusqu'au dernier moment, jusqu'en 629, c'est-à-dire lorsque la Mecque ouvre ses portes au prophète. La nouvelle religion paraît aussi mettre en cause le pèlerinage. Les musulmans se tournent, lorsqu'ils sont à la Mecque, le petit groupe qui s'est constitué autour de Mohammed, se tourne vers Jérusalem et non pas vers la Mecque. C'est bien plus tard, enfin à partir de 624 et lorsqu'il sera à Médine, que Mohammed tournera la prière des musulmans vers la Mecque. Et enfin, il annonce ce que les Arabes ne connaissaient pas et qu'ils acceptaient mal, une forme de jugement. Tous les hommes seront jugés au dernier jour, et c'est ce jugement qui est le point le plus neuf de la prédication de Mohammed, à vrai dire. Mais tout cela ressemble tellement au judaïsme et au christianisme qu'on l'accuse aussi de diffuser la religion des étrangers.
Et est-ce qu'on sait comment Omar s'est converti ?
Alors, il y a une anecdote célèbre sur la conversion de Omar. Il aurait vu une feuille qui aurait contenu des versets du Coran entre les mains de sa sœur. Et il était extrêmement brutal. C'était un de ses défauts. Et aussi, ce sera un de ses mérites, parce que cette brutalité va avec une extrême énergie dans la conduite des hommes. Mais il aurait arraché cette feuille des mains de sa sœur en la grondant fortement, après quoi il aurait lu ces versets et la beauté de ces versets, dit-on, l'aurait converti.
Omar qui donc se convertit à l'âge de 33 ans et qui va accompagner le prophète lors de sa fuite à Médine en 622.
Ceci est intolérable. Mahomet va jusqu'à mettre en péril nos alliances étrangères. Parfait. Nous allons en faire un étranger. Abou Talib persiste à le protéger. Parfait. Nous allons jeter l'oncle et le neveu hors du pays.
Oui.
Dans le même paquet, toute sa famille dehors. Nous allons les expulser de notre communauté. Nul marchand ne devra faire commerce avec eux. Nulle terre ne devra leur appartenir. Nul toit ne devra les abriter. Nul boulanger ne cuira leur pain.
Ce voyage a bouleversé le monde. L'Égypte ou la fuite vers Médine. Il n'était que 70, répartis en petits groupes, qui traversèrent 350 km de désert. Et pourtant les conséquences furent si profondes, les effets furent si considérables, que le calendrier musulman date de ce jour-là. C'est ce jour-là que l'islam forgea son avenir. Mahomet, lui, était resté à la Mecque, exposé au plus grand danger jusqu'au terme du voyage de tous ses fidèles.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous parlons de l'économie arabe à l'époque du calife Omar, compagnon de Mahomet. Et donc Omar accompagne Mahomet lors de sa fuite à Médine. Et ensuite, Mahomet va réussir à lever une armée pour soumettre la ville de la Mecque, Gabriel Martinez-Gros. Cette ville qu'il a persécutée?
Oui, c'est ça. Enfin, lever une armée n'est peut-être pas tout à fait le mot. C'est-à-dire qu'il va mobiliser les Médinois. En fait, il est probable que Médine s'est converti d'abord lorsque Mohammed y est arrivé. En fait, le marché avait été passé un peu auparavant entre les Médinois et le prophète pour qu'il s'installe à Médine en échange de la conversion des Médinois à la nouvelle religion, à l'islam. Et donc, les Médinois ont probablement cherché à utiliser les divisions qui apparaissaient visiblement dans la société mécoise pour renverser la balance du pouvoir en leur faveur et au détriment de la Mecque. Ce qu'ils ont fait dans une certaine mesure, hein, puisque ces exilés, Mohammed lui-même, et puis c'est 70, évidemment le nombre n'est pas choisi par hasard, c'est 70 compagnons, ceux qu'on appelle donc les Muhajirun, ceux qui ont fait l'égir, ceux qui ont fait l'exil, un peu comme les gens de la longue marche dans la Chine de Mao des années 30, ceux-là vont en effet s'établir à Médine, et Mohammed mourra à Médine, parmi les Médinois. C'est Médine qui sera la première, et non pas la Mecque, qui sera la première capitale du monde islamique, enfin de l'État islamique.
Mais c'est lorsque la Mecque est conquise, en 630, que les musulmans vont commencer à conquérir les nombreuses tribus arabes de la région. Comment est-ce qu'ils y parviennent, Gabriel Martinez-Gros?
Ils y parviennent parce qu'ils prennent l'héritage, ils reprennent l'héritage de la Mecque, et d'ailleurs aussi de Médine, mais surtout de la Mecque, qui avait de très nombreuses alliances tribales, à cause même de cette nécessité d'assurer le passage des caravanes vers la Syrie ou vers l'Irak. Et ce noyau important dans la région occidentale de l'Arabie, ce noyau important de tribus déjà alliées à la Mecque, va se rallier évidemment à l'alliance de la Mecque et de Médine, puisque désormais c'est une sorte de co-responsabilité que ces deux villes exercent sur l'islam et sur le nouvel État islamique. Et ensemble, ils vont conquérir, c'est-à-dire imposer un tribut, tout simplement, un impôt à l'ensemble des tribus de l'Arabie, celle du Yémen et puis celle de l'Est de l'Arabie, non sans difficulté.
Et ce sont des tribus arabes qui ne connaissaient pas l'impôt jusqu'ici,
qui ne connaissaient absolument pas l'impôt, ni la notion même d'État, bien sûr, et qui, dès la mort du prophète, c'est-à-dire en 632, après, à peine un ou deux ans après avoir été soumises, se révoltent. C'est-à-dire que, pour elles, la mort du prophète signifie la fin de l'impôt. Et c'est ce que l'islam appelle, la tradition islamique appelle la ridda, c'est-à-dire mot à mot l'apostasie. Mais cette apostasie, c'est tout simplement l'arrêt du paiement de l'impôt. Hein, c'est-à-dire l'arrêt de l'allégeance faite au nouvel État islamique.
Et pourquoi cet impôt est-il accepté dans un premier temps lorsque Mahomet est encore en vie?
Il est accepté à cause de l'autorité même de Mohammed, probablement, et il est accepté parce qu'il est imposé. Hein, il est imposé par la force, par et les forces combinées, cette fois-ci, des musulmans de Médine et de la Mecque ralliée au nouvel État musulman. Mais comme dans beaucoup d'autres situations historiques, les soumis estiment, à la mort de celui qui les a soumis, que leur soumission cesse. Que cette soumission était personnelle, qu'elle lui était dédiée, mais que désormais il n'y a plus de raison de continuer sous ce même régime. Et il apparaît d'autres prophètes en Arabie, en particulier dans l'Est et dans le Sud de l'Arabie, mais surtout dans l'Est, d'autres prophètes qui entendent prendre exemple sur le prophète, et Mohammed j'entends, et constituer à leur tour des États. Certains proposent même à la Mecque et à Médine le partage de la péninsule, l'Est pour moi, l'Ouest pour vous. Et puis, c'est la répression de cette ridda, de cette révolte des tribus de l'Est qui va conduire directement en fait, aux conquêtes. Parce que les premières conquêtes qui se font au détriment du territoire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, donc dans l'Est de l'Arabie, ces premières conquêtes sont une sorte de débordement de l'opération de rétablissement de l'ordre au profit de l'État islamique dans les tribus de l'Est de l'Arabie.
Et on va voir effectivement comment ces conquêtes se traduisent aussi par une domination économique juste après ça.
Sizni bizni yaratgan La ilaha illallah Bulbul qilib sayratgan La ilaha illallah Yakka yagona Alloh La ilaha illallah Yakka yagona Alloh La ilaha illallah Mihribonimiz Alloh La ilaha illallah Mihribonimiz Alloh La ilaha illallah Bizga Qur'onni bergan La ilaha illallah Qaymog'u nonni bergan La ilaha
Le Tarli, l'Iliane Dieu, Qu'Allah, chanté par l'ensemble de femmes de Fargana sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Calife Omar, taxer les infidèles, c'est notre sujet aujourd'hui. L'historien Gabriel Martinez-Gros est toujours avec nous dans cette émission réalisée par Jeanne Cherquefos avec l'aide de Denis Forger et mise en onde par Hugo Renard. Alors lorsque Mahomet meurt le 8 juin 632, que représente le territoire conquis par les musulmans, Gabriel Martinez-Gros?
À ce moment-là, à peu près l'Arabie. À peu près la totalité de l'Arabie. Et c'est une journée absolument décisive, hein, évidemment, puisque le problème qui se pose immédiatement, c'est celui du maintien de l'alliance entre la Mecque et Médine. Certains Médinois, puisque le prophète meurt à Médine, certains Médinois, qui sont majoritaires dans l'assemblée qui se réunit dans la soirée, sous une petite tonnelle, ce qu'on appelle la Saqifa, hein, et qui va décider de ce qu'il faut faire, puisque désormais le prophète n'est plus là, certains Médinois veulent rompre l'alliance, c'est-à-dire faire en sorte que la Mecque ait son domaine et que Médine ait le sien. Et c'est précisément Omar, avec la complicité ou avec l'aide d'Abou Bakr, l'ami le plus intime du prophète et un homme de grand âge déjà en 632, qui impose le maintien de l'alliance et donc le maintien d'un État islamique, sans quoi l'État islamique, si la Mecque et Médine s'étaient séparés, aurait totalement disparu, bien entendu.
Et qui choisissent pour succéder à Mahomet Abou Bakr plutôt qu'Ali, ce qui est beaucoup reproché voilà. À Omar par les chiites. C'est ce que raconte l'écrivain libanais Amin Malouf dans son roman Samarcande, qui retrace l'histoire du poète et savant perse Omar Khayyam au XIe siècle. Khayyam entre, salue, décline une prudente identité. Omar, de Nishapur. L'étudiant le harcèle avec le sourire. Quand on se prénomme Omar, il est imprudent de s'aventurer du côté de Kashan. Khayyam feint la plus totale surprise. Il a pourtant bien compris l'allusion. Son prénom est celui du deuxième successeur du prophète, le calife Omar, abhorré par les chiites, puisqu'il fut un tenace rival de leur père fondateur, Ali. Si pour l'heure la population de la Perse est en grande majorité sunnite, le chiisme y représente déjà quelques îlots, notamment les villes aux oasis de Qom et de Kashan, où d'étranges traditions se sont perpétuées. Chaque année, on célèbre par un carnaval burlesque l'anniversaire du meurtre du calife Omar. À cet effet, les femmes se fardent, préparent des sucreries et des pistaches grillées. Les enfants se postent sur les terrasses et déversent des trompes d'eau sur les passants en criant joyeusement « Dieu maudisse Omar ». On fabrique un mannequin à l'effigie du calife, portant à la main un chapelet de crottes enfilées qu'on promène dans certains quartiers en chantant « Depuis que ton nom est Omar, tu as ta place en enfer, toi le chef des scélérats, toi l'infâme usurpateur ». Les cordonniers de Qom et de Kashan ont pris l'habitude d'écrire Omar sur les semelles qu'ils fabriquent. Les muletiers donnent son nom à leurs bêtes, se plaisant à le prononcer à chaque bastonnade. Et les chasseurs, quand il ne leur reste plus qu'une seule flèche, murmurent en la décochant « Celle-ci est pour le cœur d'Omar ». Gabriel Martinez-Gros, pourquoi Omar a-t-il soutenu Abou Bakr plutôt qu'Ali au moment de la succession de Mahomet?
Ah, c'est un problème politique très tout à fait important, tout à fait majeur. En fait, lorsque Mohammed est rentré à la Mecque, il y a eu une sorte de capitulation assez lénifiante au total. On a assassiné quelques poètes. Ce sont pratiquement les seules victimes de cette guerre civile que se sont livrées les musulmans et les Mécois. Et ceci de la décision de Mohammed, qui n'a pas voulu de représailles contre ceux qui l'avaient chassé et qui l'avaient combattu. Or, Ali était, lui, favorable à des représailles massives contre l'aristocratie mécoise. Et donc, à partir de là, et jusque pratiquement à sa mort, hein, Ali sera, on dirait aujourd'hui pour un candidat, barré par l'aristocratie mécoise, dont Omar et Abou Bakr sont finalement d'assez fidèles représentants, bien qu'ils aient rompu avec la Mecque en suivant, bien sûr, Mohammed à Médine.
Et vous l'avez dit, la mort de Mahomet soulève donc le soulèvement des tribus arabes contre l'impôt. C'est à ce moment-là qu'apparaît la nécessité de trouver des financements pour cet État islamique nouvellement créé, Gabriel Martinez-Gros.
Oui, voilà. C'est-à-dire que l'État islamique tel qu'il est constitué en 632 est bancal. Il est bancal parce qu'il lui manque un centre, un foyer d'activité productive important sur lequel l'État puisse lever l'impôt. L'impôt ne peut être levé que sur pratiquement le Hijaz, la partie occidentale de l'Arabie qui est relativement la plus prospère, mais cet impôt serait mince et ne suffirait probablement pas à assurer le maintien de l'État, la persistance de l'État, dans la mesure où cet État serait probablement en but, étant donné le caractère très réticent à l'impôt de la plupart des tribus arabes, cet État ne serait pas capable de réprimer les révoltes. Et par conséquent, il faut des centres productifs pour permettre à l'État islamique de subsister. Et ces centres productifs, ils sont là, ils sont tout près, ils sont à proximité. Ce sont les centres productifs des deux grands empires, l'Empire romain d'une part, la Syrie et l'Égypte, et l'Empire perse d'autre part, c'est-à-dire l'Irak. Et ces centres productifs, ce seront les premières cibles de l'islam sous Omar. Étrangement, ce qui va donner aux Arabes la certitude du bien fondé de cette nouvelle religion, le succès sera immédiat et fulgurant.
Et oui, vous l'avez dit, Abou Bakr est âgé lorsqu'il succède à Mahomet. Il va mourir seulement 2 ans après. Et c'est Omar qui va devenir ainsi calife à son tour. Et ce vaste mouvement de conquête va débuter par le pillage de l'Irak, Gabriel Martinez-Gros.
Voilà. C'est probablement... Nous sommes plus sensibles, parce que ce furent des terres romaines et byzantines, de langue grecque, nous sommes plus sensibles au destin de la Syrie et de l'Égypte. Il est bien possible d'ailleurs que ces Arabes du Hijaz, qui étaient les maîtres du nouvel État musulman, l'aient été aussi, parce que le Hijaz donne directement sur la Syrie, beaucoup plus que sur l'Irak. Mais c'est étrangement par l'Irak que vont commencer les conquêtes, à cause même des combats très durs qui s'y déroulent contre les tribus arabes révoltées, qui sont ensuite, presque immédiatement, entraînées, aussitôt leur défaite acquise, à la conquête des nouveaux territoires, donc des nouveaux territoires irakiens en l'occurrence. Alors, c'est d'autant plus important que l'Irak est une capitale, est une province capitale, c'est-à-dire que la capitale de l'Empire perse n'est pas en Iran. La capitale de l'Empire perse est en Irak, non loin d'ailleurs de l'actuel Bagdad, comme le disait d'ailleurs, je crois, hier Francis Johannes, hein, c'est presque toujours dans un cercle d'une cinquantaine ou d'une centaine de kilomètres de diamètre que s'est située la capitale de la Mésopotamie depuis presque la plus haute antiquité, depuis que Babylone est devenue la ville essentielle de la Mésopotamie. Plus tard, c'est le Si, et puis Ctesiphon, la capitale de l'Empire perse. C'est cette capitale que les Arabes vont conquérir très vite, très très vite.
Oui, ce sont deux batailles décisives qui ont lieu en 636.
Voilà.
L'une de ces batailles va tout simplement entraîner la chute de l'Empire perse, Gabriel Martinez-Gros.
Voilà, en tout cas la chute de sa capitale. Ctesiphon est conquise en 636-637. Du côté syrien, c'est-à-dire du côté byzantin ou romain, la victoire est aussi éclatante. C'est la victoire du Yarmouk qui permet pratiquement, au bout de quelques années, la conquête de la totalité de la Syrie. Mais la Syrie n'est pas la province capitale de l'Empire byzantin, c'est-à-dire que la capitale de l'Empire byzantin, Constantinople, restera complètement au-delà de la portée de la conquête musulmane. Et là, commence à s'introduire une différenciation entre les deux conquêtes. La conquête de l'Empire perse, qui sera totale, et celle de l'Empire romain, ou byzantin, qui ne sera que partielle, puisque la capitale et la province capitale, c'est-à-dire notre actuelle Turquie, hein, l'Anatolie, échapperont toujours aux Arabes tout au long du Moyen-Âge.
Et c'est ce qu'écrira le penseur Ibn Khaldoun, auquel on avait consacré une excellente émission avec vous, Gabriel Martinez-Gros. Il l'écrira au XIVe siècle. Il faut qu'une capitale économique et politique tombe, qu'un centre tombe, pour que l'Empire s'effondre, et c'est ce qui s'est passé pour l'Empire perse. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé pour l'Empire byzantin.
Voilà, voilà. Et c'est une différence essentielle, malgré les pertes qui sont évidemment extrêmement sensibles pour l'Empire byzantin que représentent la Syrie et l'Égypte, probablement la moitié de sa population, probablement la moitié ou les deux tiers de ses revenus fiscaux, il reste assez de l'Empire byzantin pour qu'il puisse subsister pendant plusieurs siècles, tandis que l'Empire perse va totalement disparaître.
Après ses conquêtes en Irak et en Syrie, Omar poursuit en effet sur sa lancée vers l'Égypte.
C'est quoi cette lueur à l'horizon, numéro 10 ?
Les lumières du port d'Alexandrie.
Font naufrager les papillons de ma jeunesse.
Oui ?
Non, je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai faim.
Nous serons à Alexandrie au matin. Là-bas, c'est la tour de l'île de Pharos, dont le feu guide tous les navires.
Un feu qui guide tous les navires. Ils sont fous, ces Égyptiens.
C'est une des sept merveilles du monde, Obélix. Imagine le plus grand édifice jamais construit par l'homme.
En tout cas, j'ai plus d'appétit qu'à Barracuda.
Barracuda.
Vous avez reconnu Astérix et Obélix, mission Cléopâtre, des siècles plus tard, quand les Arabes conquièrent l'Égypte en 642, le phare d'Alexandrie est toujours debout. Omar est-il responsable de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, Gabriel Martinez Gros? Certains historiens le pensent.
Il est probable qu'elle avait, pour l'essentiel, disparu, malheureusement. Non, ce dont Omar est responsable, et la conquête de l'Égypte est responsable, c'est le refus de la mer. Omar demande à Amr, l'homme qui a conquis, son général qui a conquis l'Égypte et occupé Alexandrie, de lui décrire la mer. Alors, c'est peut-être une histoire qu'on trouvait, mais toujours est-il que Amr lui dit que c'est une créature immense sur laquelle les hommes sont comme des petits vers sur un arbre, et Omar interdit, à la suite de cette description abominable, il interdit aux musulmans de prendre la mer, hein. Et on attribue au calife Omar le refus que l'islam a eu de la mer pendant quelques dizaines d'années, à vrai dire, au bout d'un siècle ou un siècle et demi, évidemment. Cette peur a été surmontée avec l'aide des populations désormais soumises de l'Empire islamique.
On a cité Ibn Khaldoun, le grand penseur d'origine arabe, qui, au XIVe siècle, revient sur les conquêtes d'Omar dans la Mukaddima, l'introduction à son discours sur l'histoire universelle. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Voyez ce que sont devenus les pays sur lesquels les Arabes ont régné et qu'ils ont soumis depuis le début de la création. Leur civilisation s'est effondrée. Ils se sont vidés de leur population et même la terre n'y est plus ce qu'elle était. Le Yémen, lieu de séjour fixe, n'est plus que ruine à l'exception de quelques cités. De même, la civilisation persane de l'Irak arabe est complètement détruite. C'est le cas encore de la Syrie d'aujourd'hui. Tels sont les Arabes en général. Ils passent ordinairement toute leur vie en voyage et en déplacement, ce qui est en opposition et en contradiction avec une vie fixe, productrice de civilisation. Les pierres, par exemple, ne leur servent que comme point d'appui pour leurs marmites. Ils vont les prendre dans les édifices qu'ils dévastent dans ce but. Le bois leur sert uniquement à faire des mâts et des paquets pour leurs tentes. Pour s'en procurer, ils démolissent les toits des maisons. Leur existence est essentiellement en opposition avec la construction, qui est la base de la civilisation. De plus, il leur est naturel de piller ce qui appartient à autrui. Pour gagner leur subsistance quotidienne, ils ne comptent que sur leur lance. Leur tendance à extorquer les biens d'autrui n'a pas de limite. Dès que leur regard se pose sur un bien quelconque, mobilier ou ustensile, ils s'en emparent. Par ailleurs, ils forcent les artisans et les ouvriers à travailler pour eux, mais leur travail leur paraît sans valeur et ils ne lui accordent aucune rétribution. Or, le travail est la base réelle du profit. S'il n'est pas apprécié et rétribué, l'espoir de réaliser un profit s'affaiblit et les gens ne veulent plus travailler. Les habitants se dispersent et la civilisation se désintègre.
Par Diane Devancet de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Que vous inspire ce texte, Gabriel Martinez Gros?
C'est un des textes les plus polémiques d'Ibn Khaldoun, puisqu'il est d'Ibn Khaldoun. C'est-à-dire que c'est à cause de ce texte qu'Ibn Khaldoun est encore regardé souvent avec méfiance dans le monde arabe, on ne lui pardonne pas bien... Parce qu'on ne le comprend pas, ce texte. Ce que dit Ibn Khaldoun dans ce texte, c'est qu'il y a deux ordres de société, et qu'il voit, lui, dans le monde, deux ordres de société. Un ordre de société qui est fondé sur le travail, et donc sur l'accumulation du capital, sur le projet. Et un ordre de société qui est fondé sur le courage, et sur un courage prédateur. C'est-à-dire, ton vêtement me plaît, tu vas me le donner. Si tu ne veux pas me le donner, défends-le. Car je vais t'attaquer. Voilà, c'est ça la morale du Bédouin, qui ne compte que sur leur lance pour assurer les ressources dont ils ont besoin pour vivre. Et donc, en fait, c'est effectivement deux ordres totalement différents, au point qu'on peut se demander si pour Ibn Khaldoun, je pense que c'est le cas d'ailleurs, une forme de lâcheté n'est pas indispensable à la civilisation. Puisque une forme de courage excessif ne conduit qu'au déploiement de la violence, en fait.
Et c'est une réalité, au premier temps de l'islam, le premier bénéfice de la conquête, c'est le pillage, Gabriel Martinez-Gros ?
Absolument, puisque les deux mondes sont présents, peut-être sont-ils présents pour la première fois de façon aussi claire. Hein. Vous avez d'un côté des populations absolument sédentaires, absolument... accoutumés au travail et à l'accumulation du capital par le travail, et à l'accumulation aussi de la population, parce que la première des richesses, c'est les hommes, hein, c'est la reproduction des hommes au-delà de sa propre génération, l'augmentation du nombre des hommes constante, et d'un autre côté, une population qui est habituée, au contraire, à ne compter que sur ses lances pour assurer les ressources qui lui sont nécessaires. Et il est probable que, même si on peut considérer, après tout, pourquoi pas, l'invasion macédonienne d'Alexandre le Grand comme une invasion barbare de l'Empire perse, c'est tout de même la première des invasions aussi clairement bédouines, au sens d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire de ceux qui comptent sur leur lance pour vivre, au détriment de ceux qui comptent sur leur travail pour vivre.
Et est-ce que des récits de ces pillages nous sont parvenus ?
Oui, des récits de ces pillages, en effet, nous sont parvenus, des récits que font des historiens arabes qui sont, eux, plusieurs siècles plus tard, totalement sédentarisés, qui connaissent, qui vivent dans des villes, qui connaissent la valeur des choses, qui connaissent la valeur du travail, qui connaissent la valeur des objets, etc. Mais ces premiers Arabes ne les connaissaient pas, et donc on a l'anecdote d'Arabes qui découvrent une immense vasque dans le palais des rois de Perse, qui est empli de camphre. Le camphre était une substance extraordinairement précieuse, et qu'ils prennent pour du sel, c'est-à-dire pour une chose assez banale, mais qui pour eux, est une chose précieuse. Ou bien qui coupe à la hache un immense tapis dont tout le prix est précisément dans la taille, bien sûr, et dont ils détruisent ainsi l'essentiel de la valeur ajoutée.
Et après les pillages, comment partager le butin ? Omar a des idées assez précises à ce sujet, Gabriel Martinez-Gros.
Voilà. Alors, Omar est effectivement aussi, malgré ses origines bédouines, hein, comme tous, celui qui a probablement le mieux et le plus vite compris qu'il était nécessaire d'avoir une forme d'État et une forme de fiscalité pour mieux répartir la richesse. C'est-à-dire, par exemple, pour ôter à ceux qui ont eu des conquêtes faciles et des bénéfices considérables, pour donner à ceux qui ont mené des conquêtes absolument nécessaires à la sécurité des territoires de l'islam, mais au détriment de montagnards ou au détriment de tribus bédouines extrêmement pauvres. Donc ces conquêtes ont été à la fois absolument nécessaire et très peu fructueuse. Et donc, il faut récompenser cela en ôtant un peu de ceux qui ont eu des conquêtes, qui ont mené des conquêtes faciles et très fructueuses.
Donc, il y a déjà une forme de redistribution.
Une forme de redistribution. De même qu'il faut redistribuer à l'avantage des veuves, à l'avantage des orphelins, à l'avantage des malades, etc.
Et l'objectif de ces conquêtes est donc vraiment économique. et non pas religieux, Gabriel Martinez-Gros. C'est ça qu'il faut vraiment réussir à comprendre.
Absolument. C'est, bon, il faut bien voir que c'est un pactole extraordinaire. Si on attribue, alors je suis peut-être un peu généreux, mais si on attribue 5 millions d'habitants à chacune des trois grandes provinces que conquiert l'islam dans les 10 premières années de ses conquêtes avec Omar, c'est-à-dire la Mésopotamie, l'Irak, la Syrie et l'Égypte, ça fait 15 millions d'habitants, c'est entre 15 et 30 fois plus que la totalité des Arabes. C'est-à-dire que vous avez 15 à 30 fois plus d'hommes qui travaillent désormais pour vous. Et donc, d'un seul coup, évidemment, la prospérité est tout à fait considérable, évidemment. Hein. Les Arabes vont se retrouver à la tête d'une masse fiscale colossale qui est celle des anciens empires, parce que assez rapidement, bien sûr, les anciens serviteurs des anciens empires perses ou romains se mettent au service du nouveau maître, et les Arabes eux-mêmes s'installent en masse dans les territoires, dans les nouveaux territoires conquis, exactement de la même façon que les Grecs l'avaient fait au détriment des territoires méditerranéens de l'empire achéménide qu'ils avaient conquis.
Et donc il va y avoir un impôt pour les musulmans et un autre impôt pour les non-musulmans.
Absolument, oui. Alors l'impôt pour les musulmans est extrêmement faible, hein, c'est ce qu'on appelle la zakat, c'est l'aumône, au maximum 2,5% du revenu, tandis que l'impôt pour les non-musulmans est extrêmement lourd. Hein. La fiscalité est ce qui distingue avant tout les musulmans des non-musulmans. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que le passage à l'intérieur de l'islam n'est pas recommandé, n'est pas conseillé, n'est pas admis, même, dans un certain nombre de cas, pendant des dizaines d'années qui suivent le califat d'Omar.
Oh, you who were raised amongst us, coming with a word to be obeyed. You have brought to this city nobleness. Welcome, best caller to God's way.
Chant traditionnel islamique que les habitants de Médine auraient chanté à l'arrivée de Mahomet à Médine, interprété ici en anglais par le Britannique Cat Stevens, alias Youssouf Islam. Alors, ce qui est intéressant, Gabriel Martinez-Gros, c'est que le calife Omar est la figure du guerrier dans le monde musulman, et pourtant, il n'a jamais fait la guerre lui-même.
Oui, alors c'est vrai, il dirige les armées musulmanes vers les différents objectifs qu'il fixe lui-même dans une assez large mesure. C'est lui qui va décider, par exemple, de ce que la Syrie devrait être conquise avant l'Irak, ou en tout cas que l'expédition partie pour l'Irak devra venir renforcer l'expédition de Syrie qui connaît quelques difficultés. C'est lui qui fixe la conquête, la date, le moment de la conquête de l'Égypte aussi, comme vous l'avez dit. Mais lui-même reste à Médine. Hein. Il est une sorte de chef d'état-major des armées, c'est un grand mot, ce sont des tribus en armes, évidemment, hein, qu'il dirige vers les différentes directions, en fonction, évidemment, des résistances que les musulmans rencontrent ou qu'ils ne rencontrent pas, bien sûr. Hein. Et effectivement, dans un premier temps, c'est bien l'Irak qui cède totalement avant la Syrie romaine, qui est mieux défendue, même si elle finit par céder assez rapidement. Elle aussi, Antioche est conquise en 639-640. Et puis ensuite, c'est la conquête de l'Égypte, donc d'Alexandrie, en 642.
Et on a parlé de ces impôts qui sont ainsi prélevés auprès des populations non musulmanes. Mais après la mort d'Omar, les recettes fiscales des territoires conquis peinent à arriver en Arabie. Ces impôts bénéficient surtout aux descendants des conquérants arabes.
Mais voilà, c'est-à-dire que les Arabes sont installés effectivement dans les provinces qu'ils ont conquises. Et ce sont les descendants de ces conquérants qui vont bénéficier dans ce qu'on appelle des amsar, c'est-à-dire en fait les camps retranchés, qui sont en fait des chefs-lieux de la levée de l'impôt, d'abord, hein, et qui vont devenir des villes, les villes parmi les plus importantes de l'islam, Koufa, Basra en Irak, Alep, Homs en Syrie, et Foustat, qui est l'actuel Caire, en fait, hein, en Égypte. Et donc, dans un premier temps, les revenus de la province reviennent aux Arabes qui sont établis dans ces camps retranchés, villes, capitales. Et tout l'effort des califes, mais il faudra presque deux siècles pour cela, consistera à briser l'obstacle, l'écran des Arabes, des tribus arabes, désarmer les tribus arabes de ces villes-camps, pour faire en sorte que les revenus de l'impôt arrivent directement dans les coffres de l'État, c'est-à-dire dans les coffres de l'administration centrale, de la ville capitale, mais ce sera seulement à Bagdad. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à partir de 762, puisque Bagdad n'est créé qu'au 8e siècle, Bagdad sera une ville qui croîtra dans ses proportions énormes qu'on n'avait pas connues jusque-là, parce que jusque-là, l'impôt était relativement réparti dans les différentes provinces.
Et c'est le fait que, après les Omeyyades, les califes suivants reviennent sur ce système des camps retranchés, qui explique qu'il y a une forme d'âge d'or qui est associée au calife Omar, qui serait vraiment l'homme de cette économie de conquête et de cette politique d'expansion.
Voilà, l'homme de la juste répartition, hein, la répartition égalitaire, en fait, elle ne l'était pas, bien sûr, mais de la répartition relativement égalitaire entre les tribus arabes et l'homme du refus du pouvoir d'État dans sa pompe et dans ses dépenses excessives, somptuaires. Hein. On dit qu'Omar a fait détruire la porte, entre guillemets, la porte de roseau, du petit palais de roseau que son gouverneur de Koufa, l'un de ses camps militaires les plus importants, avait fait construire. Il a fait brûler le symbole de l'autorité que ce gouverneur prétendait exercer sur les tribus arabes de Koufa.
Omar, qui est aussi associé à une certaine vision de la vie bédouine, par opposition aux grandes villes, Gabriel Martinez-Gros.
Absolument. On attribue soit au prophète lui-même, soit à Omar, un certain nombre de hadiths, enfin de dires, qui montrent l'attachement, effectivement, à une morale bédouine, c'est-à-dire à une morale du courage, bien entendu, et aussi de la généalogie. On attribue à Omar en particulier ce dire, c'est-à-dire ne faites pas comme ces Nabatéens. Les Nabatéens sont des Arabes sédentaires, hein, qui, quand on leur demande « d'où êtes-vous », sous-entendu « quelle est votre généalogie, quelle est votre famille, quelle est votre tribu », répondent « je suis de tel village ». Être d'un village, ça n'est pas une origine pour un arabe. Hein. L'origine, c'est telle tribu, tel clan, etc.
Comment Omar est-il mort ? C'est une mort qui est teintée de mystère, Gabriel.
C'est une mort qui est teintée de mystère. Il est assassiné, ça c'est certain. Il est assassiné par un esclave chrétien qu'il aurait maltraité, disons, mais il est possible, évidemment, qu'il y ait eu plus de complots autour de cette mort qu'on ne le dit en général. En tout cas, il a eu le temps, avant de mourir, puisqu'il est mort au bout de 2 ou 3 jours, après un coup de couteau mortel qui lui a été porté, il a eu le temps de désigner un conseil de 6 pour élire son successeur. Puisque désormais, il n'y avait plus de successeur évident après Abou Bakr et Omar. Et de nouveau, se poser la question d'Ali, bien sûr.
Et son successeur qui va poursuivre cette politique d'expansion, qui va poursuivre ses conquêtes.
Qui va poursuivre ses conquêtes et éliminer et écarter une fois de plus Ali. Hein, puisque Ali ne sera pas élu calife, c'est un Omeyyade, c'est-à-dire un aristocrate mécois, qui sera élu calife.
Et on l'a dit, l'objectif des conquêtes à l'époque d'Omar est économique et pas religieux, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de convertir les populations que l'on dominait, mais dès l'an 1000, la moitié de la population de l'Empire islamique est désormais musulmane. Alors, cela entraîne une baisse des recettes fiscales, puisqu'on l'a dit, ce sont les populations non musulmanes qui payent le plus d'impôts.
Et voilà, alors donc on est obligé de rompre avec la règle, c'est-à-dire de faire payer les musulmans. Puisque les musulmans sont désormais beaucoup trop nombreux pour qu'on puisse se limiter à exiger d'eux la zakat. Donc on leur fait payer ce qu'on appelle le kharaj, donc l'impôt foncier, fondamentalement, qui était dans un premier temps limité seulement aux non-musulmans. Hein. C'est le moment où tout change, c'est-à-dire que l'islam n'est plus... Enfin, le moment... C'est à partir du 9e siècle, à peu près des années 800 et quelques, que tout change, c'est-à-dire que l'islam n'est plus associé au pouvoir. Jusque-là, pendant les, on peut dire, 150, peut-être 200 même, premières années de l'islam, est musulman qui est au pouvoir. Et l'immense majorité des populations qui payent l'impôt, qui sont fiscalisées, ne sont pas musulmanes. Hein. À partir des années 800, et au-delà des années 800, l'islam, la religion musulmane, j'entends, s'étend beaucoup trop à l'intérieur des populations de l'Empire pour qu'on puisse conserver cette assimilation de l'islam au pouvoir.
On arrive à la fin de cette discussion, Gabriel Martinez-Gros. Peut-être un mot de conclusion sur ce que les conquêtes d'Omar nous apprennent sur l'économie islamique du 7e siècle.
Ce qu'elles nous apprennent surtout, c'est que il a très vite fallu, dans le cas de l'islam, et la conscience en a été prise par les dirigeants musulmans beaucoup plus vite que dans d'autres civilisations et dans des temps très antérieurs, il a fallu très vite des conquêtes qui assurent un centre productif ou des foyers productifs importants à cet empire pour que cet empire puisse subsister ou pour que cet État islamique puisse subsister. Mais précisément, ainsi l'esprit est venu aussi vite à Omar, c'est-à-dire la conscience de la nécessité rapide de conquérir, c'est parce que il avait en tête d'autres exemples, c'est qu'il y avait des empires avant lui, et l'Empire romain, l'Empire perse, et très très vite, l'islam va brûler les étapes, en quelque sorte, conquérir et organiser un empire comme l'avait été l'Empire perse ou comme l'avait été l'Empire romain, surtout l'Empire perse, à vrai dire. Hein. Et donc, en deux siècles après les conquêtes de l'islam, Bagdad a près d'un million d'habitants. Alors que pour que Rome atteigne à peu près la même dimension, il a fallu 4, 5, 6 siècles, beaucoup plus de temps. Hein, mais ça tient bien sûr à ce que l'islam a bénéficié de l'expérience des empires qui l'avaient précédé.
Un immense merci, Gabriel Martinez-Gros, pour ces passionnantes explications. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages tout aussi passionnants. L'Empire islamique, 7e siècle, 11e siècle, paru chez Passé Composé. Et puis, il y a cette histoire de l'Empire islamique, des conquêtes arabes à l'apogée et au rayonnement intellectuel de l'Empire islamique jusqu'à son déclin aux éditions Frémaux et Associés.
Voilà, c'est beaucoup plus court malgré la longueur du titre. Peut-être.
Comme vous l'avez dit, plus le livre est court, plus le titre est long. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel Martinez-Gros.
Merci.
D'entendez-vous l'écho, la découverte musicale du jour, c'est Lo Siento de l'américaine Reina Tropical. Demain, comment Catherine II de Russie est-elle partie à la conquête des richesses de la Crimée? Nous en parlerons avec Francine Lichtenan et Michel Tissier. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.